Bonjour, il est donc temps de commencer les activités matinales. Nous allons notre atelier sur le déploiement des IPv6. Nous allons parler de cas de commerciaux et d'opportunités. Il y a donc de l'interprétariat qui est disponible. Pour ceux qui veulent utiliser ce service, vous pouvez prendre donc les écouteurs qui sont sur les tables. Nous avons des gens très distingués sur le panel. Je vais donc commencer par du côté gauche. Nous avons Jacques Latour de SIDA. L'organisation qui s'occupe de .ca au Canada va parler des défis que rencontrent les opérateurs CCTLD. Nous avons aussi Carlos Raúl Gutiérrez, qui est le président des régulateurs télécommunications de Costa Rica, de Sotel. Il va parler des initiatives IPv6 pour les gouvernements. Et à ma gauche, Arturo Serville. C'est le CTO de l'ACNIC. Il va nous parler du déploiement des IPv6 en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous attendons encore une autre personne de Costa Rica, Carlos Watson. Il n'est pas encore là. À côté d'Arturo, nous avons Patricia Poblete. Patricio est un des pionniers de l'Internet en Amérique latine. Un joueur très pertinent pour tout ce qui est Internet. Patricio, c'est le PDG de NIC Chili. Il parlera des initiatives IPv6 au Chili. Au bout de la table, nous avons Martin Lévy. Martin, c'est le directeur des stratégies IPv6 de Hurricane Electric. C'est un orateur habituel dans toutes les réunions IPv6 à travers le monde. C'est lui qui promouvoit le déploiement IPv6 au niveau international. Il va parler du lancement IPv6 monde. Pardon. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter ici ou vous voulez qu'on enlève cette lumière ou vous voulez passer de ce côté-là, les diapos. Oui, donc. Jacques, vous pouvez commencer. Bonjour, je m'appelle Jacques Latour. Je suis avec SIDA. Et nous opérons .ca au Canada. Je vais parler de notre expérience dans le déploiement des IPv6 du point de vue des CCTLD. Prochaine diapo. En fait, l'année dernière, en janvier, nous avons appris à propos de la journée IPv6 monde. Donc, j'ai donc décidé d'être prêt d'ici 6 mois pour le faire internellement, de façon interne. Nous avons voulu participer. Notre objectif, c'est de participer à partir du 8 juin à notre présentation. C'est d'un côté commercial, c'est pas un côté technique. Nous avons alloué de l'argent pour le déploiement des IPv6. Nous avons réalisé qu'on ne connaissait pas grand-chose là-dessus. Donc, nous avons assigné un manager, un gérant de projet pour pouvoir faire cela donc dans les 6 mois à venir. Donc, l'objectif pour faire V6, c'était nous voulons que tous les services pour SIRA qui sont sur Internet qui soient disponibles via V6. Nous devions avoir notre .ca, les secondaires DNS qui soient atteignables par les IPv6. Nous voulions avoir des nouveaux enregistrements. Tout ce qui est corporate.ca devait être atteignable sur les V6. Et l'habilité pour le personnel CIRA de, donc, d'obtenir tout cela via VISIC. C'était donc nos objectifs. Donc, ce qu'on a fait, on a donc construit un plan de projet. Voilà donc les choses que nous devions faire pour obtenir les VISIC dans notre infrastructure. On a fait beaucoup de recherches, bien sûr, et de découvertes. Nous avons développé une stratégie pour adopter les VISIC pour le DNS, pour le registre, pour les pour l'infrastructure corporate et registre. Ensuite, nous avons fait une évaluation de pour voir si nous étions prêts à performer et nous avons vu quelles sont les aides VISIC que nous avions à ce jour. C'était vraiment une chose importante à faire à l'époque. Nous allons aussi mettre la concentration sur le côté évaluation. Nous avons donc désigné une architecture, fait un design d'architecture de EPV6. Nous avons fait du développement, du testing, un mode de pilote aussi, et nous avons mis en place à partir du 6 juin. Donc, découvertes et recherches. La chose la plus importante, vous devez faire une évaluation de l'infrastructure, donc au côté corporate, au DNS, les registres. Le problème le plus important au Canada, c'était de trouver des ressources ou des gens qui pouvaient faire ce travail avec nous. Nous avons trouvé une ressource, ETF, au Canada, qui nous ont conseillé des services de conseil un peu consultatifs. Nous avons appris qu'il y avait très peu de gens au Canada pour nous aider pour faire vraiment une évaluation pour voir comment nous étions prêts. Ce que nous avons fait, au lieu de nous avons vu que nous étions autosuffisants. La plupart des gens que nous avons ciblés étaient nous avons aidé les entreprises à adopter V6. Nous savions deux de nos DNS étaient déjà capables pour recevoir le V6. Nous utilisons des gens qui avaient déjà du V6, donc cela nous a aidés, donc, la prochaine diapo. Pour évaluer pour voir si nous étions prêts, la chose clé que nous devons faire, c'était pour les registraires, pour qu'ils puissent soumettre les EPV6, les enregistrer. Nous n'avions pas beaucoup à faire de notre côté parce que nous acceptions les enregistrements EPV6. Cependant, la plupart des registrants avec lesquels nous avons affaire, très peu d'eux acceptaient de nouveaux enregistrements vis-à-vis de leurs registreurs. Donc, nous sommes allés les voir, nous leur avons demandé d'ajouter ces fonctionnalités. Mais notre interface soutenait donc ces enregistrements IPv6. Alors, notre point K DNS, nos serveurs aujourd'hui, et l'année dernière, depuis janvier, nous avons eu deux de nos deux DNS secondaires qui étaient capables pour le V6. Nous en avons ajouté deux et nous continuons à travailler sur les autres. Prochaine diapo. Fournir le transit. Si vous avez besoin de faire le V6, vous devez avoir accès au V6. C'était une des difficultés les plus grandes. Notre plus grand défi, c'était d'avoir du transit pour le V6. La plupart au Canada, la plupart des ISP veulent avoir le V6 disponible l'année dernière ou l'année prochaine ou à la fin de cette année. Donc, nous allons nous sommes arrangés pour avoir du transit PV6, IPv6. Ce que nous avons fait aussi, vous avez été de pair avec les V6. Nous avons demandé à nos partenaires de s'accoupler avec ce processus. Nous avons aussi travaillé tout le logiciel, le hardware que vous avez dans votre infrastructure. C'est là que nous avons découvert que c'était assez cher. Nous avons dû acheter des nouveaux équipements. C'était un peu difficile. C'était stressant. Nous avons donc mis, en fait, du nouvel équipement en place. Et l'autre chose, nous avons dû faire une évaluation de votre présence web pour faire partie de V6. Nous avons fait ça. Nous avons utilisé un logiciel qui était conforme, donc nous n'avons pas eu trop à faire de ce côté-là. Kitting, c'est une politique de sécurité. Si vous faites ça, vous devez avoir une politique de sécurité qui doit être en ligne avec votre politique existante. Donc, nous en avons construit une nouvelle. Nous l'avons mis ça sur le site CIRA. Vous avez un modèle sur le site que nous utilisons. Il est donc disponible pour vous. Vous pouvez y aller. Ce n'a pas toutes nos choses internes dedans, mais il y a quelques pages qui peuvent vous aider sur lesquelles que vous pouvez regarder. Nous avons fait beaucoup de formations. Et la formation, c'est très important. Quelqu'un qui peut venir et vous enseigner sur V6 comment faire vos évaluations et tout ça, c'est très important. Mais il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vous aider à ce sujet. Donc, il faut vraiment s'améliorer de ce côté-là. Donc, l'infrastructure de V6 est en double stacking. Il fallait donc faire que la mise en place des designs. C'est une photo de notre infrastructure. À la base, nous avons, à gauche, nous avons les DNS, 4 aujourd'hui qui sont disponibles, les secondaires, le kitting. Si vous faites du V6, vous devez comprendre que vous ne faites pas tout à travers du V6 au niveau de la compagnie. Comme avec Sira, nous avons décidé que interne, nous devons échanger tous les échanges qui marchent avec les V4. Si vous voulez participer à V6, c'est un peu une bonne manière de commencer. Et vous pouvez atteindre V6 CIRA via V6. C'est juste un résumé, mais c'est parti de l'infrastructure. Nous avons désigné, donc fait des directives. Nous voulons garder V4 comme elle est. Il y a donc le double stacking. Nous voulons assurer que tous les systèmes de V6 ont double stack avec un accès aux IP indigènes. Donc, un hôte, une IP, pas de traduction d'adresse net de réseau. Donc, l'adresse CIRA, par exemple, c'est l'adresse qui doit accéder au site. Il n'y a pas de traduction. Nous avons fait une bonne sécurité pour nous protéger et ce n'était pas un mécanisme de sécurité, donc c'était un grand rôle à remplir. Nous avons construit un plan d'adressage IPv6. Depuis, il faut faire donc de la privauté, une adresse privée. Il faut aussi gérer la sécurité. C'était un défi. Ça ne marche pas forcément très bien avec le V6. Donc, il y avait des problèmes de logging. Donc, nous avons quand même réussi à gérer. Il faut trouver des outils de contrôle qui suivent. Donc, nous avons fait cela quand même en 6 mois. Nous avons construit un laboratoire. Un laboratoire complet pour faire des tests sur toutes nos applications web, les cookies, les adresses IP, pour être sûr que tout cela soutenait les applications V6, les adresses IP. Nous avons testé tous les équilibrateurs, tous les balances, les routeurs, les firewalls. Nous avons fait une analyse de log. Nous avons dû apprendre à travailler avec V6. C'est différent d'avec le V6 du côté d'IDS, IPS ou l'infrastructure CSIEM, nous devions être sûrs qu'elle soutienne le V6, donc, etc. Nous avons construit un laboratoire. Une fois que cela a été tout prêt, nous avons déployé. À la base, la conclusion, c'est que nous avons participé à la journée IPv6 Monde. Nous avons donc rendu capable l'IPv6 sur beaucoup de structures dont on a parlé. La différence, nous n'avons pas fait un pilote de 24 heures ce jour-là. Nous faisons IPv6 depuis. En général, le niveau de difficulté était moyen. Quand vous trouvez les ressources, comme par exemple, Isaac a déployé un programme pour vous aider à gérer votre IPv6. C'est pas si difficile finalement. Vous avez juste à apprendre le nouveau protocole. Au niveau coût, Ça peut être beaucoup d'argent pour CCTLT, mais nous avons beaucoup de disponibilité au niveau de l'infrastructure. Nous avons un site primaire, un site de backup, des load balancers pour le backup, plus une infrastructure commerciale. Donc, voilà pourquoi nous sommes à haut niveau. C'est pour ça que c'est cher. Nous avions besoin de nouveaux hardware pour le côté conseil, pour la formation. Nous avons dû aussi acheter des nouveaux transits pour faire le V6. Donc, c'était une dépense additionnelle que les fournisseurs alternes supportent le V6. Le déploiement du V6... nous attendons à ce que tous nos serveurs seront donc disponibles via V6. Les leçons que nous avons apprises quand nous avons donné quand on nous donne un bloc PV6, ce sont des allocations micro. C'est l'adresse que nous utilisons pour votre DNS, pour être présent au niveau, pour que votre DNS soit présent, pour la présence DNS. Nous avons utilisé ce bloc pour notre réseau interne, ce qui veut dire que nous avons dû obtenir un nouveau bloc pour l'autre infrastructure. Nous avons adressé notre réseau avec la bonne marque IPv6. Il faut que vous compreniez qu'il y a des adresses pour votre DNS, pour l'infrastructure de vos DNS, et différence, c'est un sous-ensemble qui va être différent de votre infrastructure commerciale. Le plan d'adressage IPv6, il y a beaucoup de manières de faire IPv6, de faire cet adressage, ce plan d'adressage. Comme avec V4, ça ne marchait pas au début. Nous avons dû relire avec une nouvelle stratégie, avec un nouveau plan. Si vous allez à votre centre de connaissance à CIRA, vous verrez qu'il y a une diapositive qui explique comment nous utilisons meilleures pratiques pour faire les adresses IP au sein de notre infrastructure. Il faut former vos gens. Il faut former, faire l'apprentissage de vos gens. Et c'est tout. Merci Jacques. Très intéressant présentation. Beaucoup d'interrogations sur tout ce que vous avez fait à Point.ca. Merci, très intéressant. Nous allons ouvrir une session questions et réponses après que les présentations du panel soient terminées. Nous allons donc passer au prochain orateur, prochain intervenant. Notre prochain intervenant, c'est Carlos Raúl Gutiérrez, qui est président de Télécommunications au Costa Rica. Bonjour, merci beaucoup. On nous a approché il y a une année par Arturo durant une de ses formations au Costa Rica pour voir ce que le gouvernement pourrait faire pour promouvoir et utiliser les IPv6. C'est intéressant de pouvoir parler de cela pour plusieurs raisons. Le gouvernement de Costa Rica, même s'il a ouvert un marché télécom, est encore l'opérateur. Ce sont des opérateurs télécom. Ils ont des locks qui sont déjà assignés. On ne sait pas s'ils les utilisent, mais nous voulons travailler ensemble avec eux. Nous voulons travailler avec eux. Pas en tant que régulateur, bien sûr, mais dans le développement d'un projet de terrain vert. Le régulateur a un grand plan pour les services universels d'accès en Costa Rica qui devrait commencer cette année. Nous utilisons l'argent d'un spectrum style enchère, comme nous l'avons fait l'année dernière. Donc, il y a assez d'argent et le gouvernement nous a demandé de les aider à fournir de la connectivité dans tous les domaines du pays où il n'y a pas de connectivité, où il n'y a pas de connexion, par les gens qui ne peuvent pas forcément payer d'une façon ouverte. Ils nous ont demandé à fournir de la connexion pour qu'ils puissent, ces gens-là, accéder à certains services du gouvernement, que ce soit du côté éducation, santé, bien sûr, le secteur bancaire en Costa Rica. Nous sommes dans le processus de développement, de développer ces systèmes en ce moment qui sont basés sur le logging individuel ou des utilisateurs ou pour les gouvernements aussi, les services du gouvernement, bien sûr. Et nous allons demander à ce que le projet soit seulement assigné à des opérateurs réguliers que le pays va donc contrôler. On va leur demander d'être capables d'utiliser, puisque nous allons offrir la connexion gratuite pour les services gouvernementaux, on va donc leur demander aux entités qui vont offrir les services en ligne puissent être adressées à travers le système V6. La raison pour cela, nous pensons que c'est nécessaire, c'est parce que nous voulons pouvoir suivre spécifiquement le trafic, donc le trafic de subsidiaires des utilisateurs individuels au service des gouvernements, de façon à ne pas détruire donc la demande privée. Nous voulons cibler la demande, la promotion pour la bande à haut débit. Donc, nous espérons que le gouvernement aura ainsi un avantage au-delà des autres services. Surtout au début, nous allons pouvoir suivre les différents usages de l'accès à haut débit. Donc, c'est ce que nous proposons. Nous allons donc poser des conditions pour le projet que nous allons développer cette année. Merci beaucoup, Carlos. Est-ce qu'il y a des questions que je vais attendre pour vous, mais je vais attendre pour la fin de cela. Carlos, est-ce que vous êtes prêt à parler? Nous avons votre présentation. Carlos Watson, la personne qui a participé au développement d'Internet en Costa Rica depuis longtemps. Il est président du chapitre de la Société Internet en Costa Rica. Je vais parler en espagnol. Il y a de la traduction. Oui, je la vois, c'est ça. OK. Bonjour à tous. Voilà mes coordonnées personnelles, si vous voulez me contacter. Voilà l'ordre du jour pour la journée. Ceux qui ont un téléphone portable ou une tablette dans leur main, levez la main. J'en ai une. La plupart d'entre vous en ont une aussi. Maintenant, vous pouvez rentrer sur Twitter, Facebook ou vos courriels parce qu'il n'y a pas d'adressage. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est ma première pensée pour le début de la présentation. IPv6, comme vous savez, c'est un protocole qui est là depuis plusieurs années. Ce n'est pas un nouveau protocole. Le problème de ce protocole, c'est que ce ne parle pas à l'IPv4. Si nous avons les deux dans le même ordinateur, dans la même boîte, dans le même contenant, nous ne pouvons pas aller vers le monde IPv6 ou 4. C'est deux mondes qui vivent en parallèle. C'est un grand problème, le grand problème pour la mise en place de ce protocole maintenant. Quand on parle d'IPv6, nous mettons le point sur en disant nous aurons que de l'IPv6. Le problème de la mise en place du 6, c'est qu'il y a deux concepts. Nous ne mettons pas la concentration sur la conceptualisation et le déploiement du protocole, mais avec les problèmes que nous avons maintenant pour le mettre en place, ce protocole. Ces statistiques sont intéressantes. Nous avons 7 milliards de personnes sur la Terre. 61% d'entre eux utilisent un téléphone portable et 37,7% utilisent l'Internet. Alors, ils ont l'accès à l'Internet, donc nous avons une croissance de 528 millions d'adresses, 4,33 millions d'adresses IP. Si nous ajoutons le marché grandissant du marché mobile, du téléphone mobile, nous voyons qu'il y a donc une tendance à l'augmentation. Si nous rassemblons tout cela et si nous multiplions ça par les instruments que nous avons, toutes ces millions d'adresses IPv4 ne sont pas assez pour pouvoir se connecter entre elles. Avec les pages e-mail, les mails, les pages web, tous les services dont on a besoin, tous les services qui ont besoin d'une adresse IP. Au niveau de ISOC Costa Rica, notre message au gouvernement est il faut écouter les municipalités. Si nous mettons en place IPv6 au début, nous allons avoir des marchés émergents. Mettons la concentration sur la mise en place en ce moment. Mais tous les IP du monde entier disent que si nous mettons en place l'IPv6, leurs coûts vont augmenter. Mais ce coût va être dilué quand le temps. Vous voyez, par exemple, dans le temps, vous voyez que le marché tablette, cela a augmenté en 2 ans et cela va continuer à augmenter. Ceux qui sont ici, ceux d'entre nous qui sont ici, vous avez tous un portable, un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette. Nous avons 3 outils. À l'époque, nous avions juste quelques ordinateurs au départ à travers le monde. Le marché émergent comme le marché asiatique, le marché européen, le marché américain. Surtout le marché asiatique, d'Asie, ethnique, par exemple, ils ont un problème de fournisseurs de IP avant parce qu'il n'y avait pas assez. Donc, avec ces régions dans cette partie du monde qui avaient avec nos partenaires asiatiques qui mettent en place les IPv6, pourquoi nous allons leur dénier les communications dont ils ont besoin pour atteindre toutes leurs sections. C'est à la base la présentation et l'approche que nous prenons d'un point de vue du gouvernement local pour nos amis aussi IPv6. Les délégations à travers le monde, en Amérique du Sud, en Amérique latine, vous avez la plus petite portion de la. Et regardez, APNIC, 38,7% du déploiement des IPv6, de la délégation IPv6. Les économies d'Amérique latine vont devoir s'intégrer à l'IPv6 de petit à petit. Nous savons que nous avons beaucoup de problèmes qui sont causés par l'IPv6. Il faut se mettre à jour avec tous les instruments, les outils. Mais nous avons assuré seulement avec les problèmes dans les pays émergents. Comment il croît si vite, mois par mois, à travers le monde. Merci beaucoup.
OK.
Bien. Merci, Carlos. Merci beaucoup. Une présentation très claire, avec des recommandations très claires aux communautés régionales. Merci beaucoup. Notre prochain intervenant est Arturo Sevi de l'ACNIC. Voilà l'avantage d'être ici près de l'ordinateur. Vous pouvez changer de diapositive. Je vais passer à l'espagnol. Et comme Raoul, donc, gardez votre appareil, je passe à l'espagnol. This présentation se rapporte aux initiatives en Amérique latine et je vais vous montrer le statut de l'IPv6, les différentes perspectives, la perspective des activités que nous avons à l'ACNIC et de l'usage de IPv6 en Amérique latine comme ICP, CCTLD se développe. Et je vais parler du statut de l'IPv6 en Amérique latine.
La gráfica de cómo está el mundo.
Sur cette diapositive, vous pouvez voir l'ensemble du monde. Il est très clair que RIPE, Europe, Asie-Pacifique, États-Unis ont les plus grands nombres d'IPv5 au milieu du gâteau. En bas, vous pouvez voir que .-8 donc /8 le camembert du bas et même avant l'adressage IPv4 IPv6 en haut à gauche vous pouvez voir que c'est similaire et IPv8 ont la plus grande part du gâteau et ensuite ces données depuis décembre 2011 ont évolué. Je vais mentionner ces changements de ces camemberts. En ce qui concerne IPv6, vous pouvez voir que les chiffres sont importants. Nous tenons en compte l'assignation, mais dans le /32 ou /8. Donc, vous avez l'assignation minimale par utilisateur. Et dans /32, vous pouvez avoir 16 millions d'assignations minimum pour un ISP. Et vous savez que l'espace ici dans IPv6, il y a davantage de marge. Et sur le diagramme, vous pouvez voir que l'ACNIC a une allocation inférieure. Nos assignations sont inférieures, donc vous pouvez voir que les assignations changent pour notre espace LACNIC. Qu'avons-nous fait en Amérique latine? Nous avons fait beaucoup de formations. 6 000, 7 000 personnes ont été formées, pas seulement à LACNIC, mais il y a eu beaucoup d'efforts par les CCTLD, des registres NIC. BR, Chili, et ils ont formé beaucoup de gens et des milliers ont été formés à travers des outils et des webinaires. Nous avons une plateforme pour des webinaires. Nous avons déterminé que c'était un bon outil pour contacter beaucoup de gens et des ateliers techniques également. Je pense qu'on devrait parler un peu moins rapidement. Les interprètes vous remercieront. Nous avons également fait du travail technique. Nous avons parlé au ISP, au gouvernement, aux fournisseurs de contenu Internet, aux universités, aux grands usagers finaux, les banques, les universités, les grandes entreprises. Et nous avons fait de grands efforts afin que tout le monde comprenne l'importance de l'IPv6 pour le développement de l'Internet, pas seulement en Amérique latine, mais dans le reste du monde. Les résultats? Voilà les assignations à l'ACNIC, vous pouvez voir. Il y a une grande croissance après 2010. Avant cela, nous avons une croissance linéaire. Et vers la moitié de 2010, on peut voir comment l'élan s'est accéléré et nous avons eu 100 000 assignations en Amérique latine. 1 000. Et la croissance se poursuit au même rythme. Par rapport au pays, vous pouvez voir ici les allocations pays par pays. Il y a eu une échelle logarithme afin que vous puissiez comprendre les grandes variations Sinon, c'était une échelle linéaire. Vous verriez que le Brésil est bien plus important et le reste des autres pays serait moins important. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi cette échelle algorithmique. Et on peut voir Brésil avec une grande pénétration d'IPv6 suivie de l'Argentine, du Chili, du Mexique, de Colombie. Quel autre pays pouvons-nous voir sur ce diagramme? Disons les plus grands pays y figurent. Nous pouvons voir comment les IPv6 ont été assignés pays par pays. Et nous avons également une autre charte par région. Ce sont les membres que nous avons, les LACNIC, les membres de LACNIC qui ont déployé l'IPv6. Nous avons divisé, ventilé ces données parce que c'était facile de ventiler ainsi pour la représentation. Donc, nous avons le Brésil, le Mexique, les registres nationaux, c'était facile, et le reste des pays sont inclus dans l'ACNIC. Nous avons 1675 pays et 310, 40% ont déployé IPv6, ont assigné IPv6. Et au Mexique, on peut voir une grande chute jusqu'à atteindre 16%. Mais ce n'est pas seulement au Mexique. Si vous analysez les chiffres dans les diagrammes précédents, vous allez voir que certains pays ont un pourcentage supérieur. Par exemple, le Chili, ce n'est pas aussi important que le Brésil, mais très proche de 40%. Mais la Bolivie, d'autres pays ont un pourcentage très faible, donc 40% que vous pouvez voir à l'ACNIC. Parce qu'il y a une grande variation, puisque certains pays ont bien supérieur, un taux supérieur à 40% et d'autres pays sont bien inférieurs à 40%. Donc certains pays ont un grand déploiement d'IPv6, alors que d'autres pays doivent travailler davantage pour déployer l'IPv6. C'est pour que l'ISP puisse... Nous venons de parler des assignations. Nous avons vu les assignations, la croissance par rapport au tableau de routage global, le préfixe de routage global. Pour le routage, le routage a été bien plus inférieur que les assignations. Donc, je n'ai pas de statistiques. Je pense que c'est 27,5%. Merci, Raoul. Le préfixe que nous avons cité à la table de routage, c'est vraiment très loin des 78%, 80% pour IPv4. Donc, bien que nous ayons fait un bon travail à assigner les ressources dans IPv5, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du déploiement d'IPv6. Ce ne sont que des routeurs dans la table de routage. On doit prendre les statistiques en compte les statistiques pour les réseaux d'IPv6, du déploiement IPv6. Voici PeerDB.
PeerDB.
Le Peering DB, c'est une base de données. Vous pouvez l'échange de trafic, vous pouvez voir le pourcentage qui ont des IPv6 qui est officiellement, et vous pouvez voir qu'on est proche de 60% en fonction de la région LACNIC. LACNIC, c'est environ 60%. Et cette information qui est dans la base de données. Donc, les ASP travaillent au déploiement d'IPv6. L'IPv6 doit être indiqué dans la table de routage. Il n'y figure pas encore. Donc, passons aux usagers finaux. Voilà les données, les statistiques. Nous avons www.vinky.org qui tient compte des cinq plus grands sites dans Alexa et les mesures de les plus grands cinq les 50 plus grands sites et on peut voir combien de IPv6 ils ont mis en œuvre. Donc, on peut voir, peut-être le comparer avec les plus grands sites au niveau global. Donc, pour la prochaine présentation, je vais préparer ce diagramme. Mais des 50 plus grands sites web au Brésil, 10 ont 5 registres AS. Et Colombie, Mexique, Pérou 1, Chili 1. Et je ne sais pas pourquoi Mexico y figure deux fois. Il y a un problème ici, mais le reste des pays, des 50 grands sites, aucun nom de registre 4S. Donc, on est très loin de la mise en œuvre du point de vue des usagers finaux de IPv6. Dans le DNS, on peut voir que la plupart des pays ont au moins quelques dossiers blue en provenance de leurs 50 plus grands sites, donc le IPv6. On peut voir que dans les 50 plus grands sites web, un seul IPv6 enabled. Donc, lorsqu'on voit l'infrastructure qui permet l'IPv6 pour le usager final, nous pouvons voir que la croissance n'est pas importante. Nous devons faire quelque chose là-dessus. Nous avons également, en ce qui concerne, il y a une pour l'IPv6 en région. C'est un effort mené par Brésil et l'ACNIC a ajouté et contribué à cet effort. Donc, on a eu un contest pour le iPad et il devait faire un checking. Si vous avez IPv4, il disait, nous sommes désolés. Donc, en IPv4, vous pouvez participer uniquement si vous avez IPv6. Donc, on essaie d'identifier là où les hits, les correspondance et là où il y avait IPv6 enabled. Donc, on voulait voir davantage de racines de DNS et des records forest pour voir combien de gens utilisaient IPv6. Donc, on avait environ 3000 correspondances. Je ne sais pas, c'est un nombre important, mais la plupart des requêtes commençaient du Brésil. On a eu beaucoup des États-Unis, d'Argentine et ici, nous avons toutes les informations sur les sources, l'origine de ces hits. Donc, cela nous donnait une bonne idée où les IPv6 sont encore déployés et où on doit encore faire des progrès. Donc, vous allez voir très peu de hits et c'est là qu'on devrait se concentrer avec les ISP pour pouvoir développer des IPv6, l'accès IPv6. Et pour vous donner une idée qui ont mis en œuvre IPv6, voici celles qui ont excédé sans appel de fichiers. Vous avez le Brazilian Central Telco. Donc, les gens pouvaient se connecter dans un tunnel. Et du Costa Rica, il y avait beaucoup d'appels de fichiers et de visites. Et MD du Brésil et National Research Network, TBNet Corporation, Telefonica du Brésil. Et parmi les entreprises qui avaient le plus grand numéro, la plus grande quantité d'appels de visites, on a également eu des tunnels gratuits et il y avait un nombre d'ISP et on a pu identifier quels ISP avaient vraiment IPv6 lorsqu'ils le revendiquaient, qu'ils avaient IPv6 enabled. Donc, certains pensaient qu'ils avaient IPv6, on ne pouvait pas le dire dans la vérification. On a eu des surprises dans le cas d'un membre au Brésil. On a déterminé qu'il y avait davantage de visites de hits que nous attendons. Mais nous avons eu beaucoup de bonnes nouvelles. Voici le diagramme pour le PTT de Brésil, l'échange de trafic, et j'aimerais souligner les différents aspects. Ici, on peut voir une grande augmentation de la circulation dans la journée IPv6 et un grand bond en avant. Et c'est ce qu'on a vu avec la semaine nationale IPv6. Et nous voyons également que la circulation devient séquentielle ou sinusoïdale lorsque il s'agit de la circulation du jour et une réduction le soir. Par le passé, nous avions des courbes plates. Maintenant, nous voyons que une circulation des usagers finaux. Donc, en conclusion, nous avons encore beaucoup de travail à faire, bien que nous assignons beaucoup d'adresses IPv6. Nous devons amener les IPv6 chez les usagers, augmenter le trafic, la circulation IPv des usagers. Et les dates sont importantes. Lorsqu'un ISP, une entreprise, a une cible avec une date de déploiement de IPv6, il commence à travailler dur et il réussit. C'est pourquoi nous avons vu une augmentation de la circulation avec la semaine et la journée nationale IPv6. Et nous allons voir également le lancement au niveau mondial. Et nous n'avons pas eu de date difficile, donc peut-être que ce n'est pas la bonne approche. Lorsque vous ne choisissez pas une date cible pour la mise en œuvre de IPv6, on a réalisé également que nous devons contacter au-delà des gens techniques et prendre des décisions commerciales pour les ISP, les gens qui sont chargés des stratégies, parce que certains pensent que l'IPv6 est trop coûteuse. On n'a pas besoin, et ce sont les gens qui doivent être persuadés du fait que IPv6 est important et probablement n'est pas aussi coûteuse qu'ils ne le pensent. Et finalement, nous pensons que cela devrait être l'année de l'IPv6 pendant laquelle IPv6 décolle. Et si nous n'avons pas d'échelle de masse au niveau du déploiement, nous allons voir que d'autres technologies pourraient avoir une influence importante sur l'Internet, et l'Internet qui est gratuite et transparente aujourd'hui, où nous pourrons innover, faire beaucoup de choses, va changer, et cet Internet va devenir quelque chose de différent par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et probablement, nous n'allons pas aimer cet Internet comme autant qu'aujourd'hui, alors que nous avons un Internet ouvert et transparent. Merci.
Thank you, Arturo, very much.
Je pense que vous devez demander pardon aux interprètes. Oui, désolé. Je suis désolé. Parce que Patricio Poblete, pour ceux qui n'étaient pas dans la pièce au moment où la réunion a commencé, Patricio est le CEO de Nick Chile. À part cela, le PDG de Nick Chile. Et il est très connu, l'une des personnalités impliqué dans la communauté Internet en Amérique latine. Patricio va parler de les initiatives IPv6 au Chili. Merci. Je parlerai en anglais. Je ne sais pas si ce sera meilleur ou mieux ou plus mauvais pour les interprètes. Vous ne m'avez pas encore entendu. Donc, lorsque on m'a demandé de faire un point de la situation au Chili avec IPv6. Juste en tant que PDG de Nick Chile, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au niveau technique. Donc, c'était un bon défi pour trouver ce qui se passait. Et le fait de parler de quelque chose avec lequel je n'étais pas totalement familiarisé, je suis professeur universitaire, ce n'est pas un problème pour moi par le passé, mais j'espère que cela se produira bien aujourd'hui. Donc, on commence avec plusieurs années auparavant à commencer à travailler avec IPv5, et le réseau académique a été le premier à recevoir un préfixe IPv6 en 2004. Nous, de Nick Chile, on en a obtenu un en 2005, et nous avons gérer des serveurs secondaires, et nous avons embauché des services de fournisseurs commerciaux. Certains ont commencé déjà en 2005 à obtenir des adresses IPv6 pour leurs serveurs. C'est à cette année-là que nous avons organisé le premier tour de visite de formation à Santiago de Chili, et organisé par l'ACNIC, et ils se sont rendus au Chili, et pour la première fois la communauté technique a été exposée à cela pour la première fois. Et cette année nous avons reçu la première requête d'un client pour d'avoir dossier AAA dans notre zone. Nous n'étions pas prêts. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. On a pu le faire l'année suivante. Et cette année, nous avons obtenu des services d'expérimentation de Next Global, qui est un fournisseur. Et nous avons une seconde version du tour IPv6 et l'un des ISP locaux a entrepris de fournir une connectivité avec double stack pour le workshop. Ils ont travaillé là-dessus et nous avons été le premier fournisseur commercial à offrir cela aux fournisseurs un peu plus après cela. Donc en 2007, nous avons essayé d'acquérir une connectivité IPv6. NIC Chile fait partie de l'Université de Chile qui est publique, donc nous devons passer par un processus pour cela, y compris l'émission de RFP. Et il n'y avait pas de personnes qui ont fait une offre. Donc on a allé dans un second tour de RFP et le fournisseur GTD qui avait participé à la seconde version de tour IPv6 a pu le faire. Donc, nous avons acheté la connectivité pour nos systèmes et en 2009, nous avons participé dans le test BEV de Google et nous avons commencé à un laboratoire, NIC Chile Research Lab, qui c'est un groupe que nous avons mis sur pied qui ne se rapporte pas forcément à nos opérations quotidiennes, mais ils ont obtenu une subvention gouvernementale pour aider, donc pour laisser les ISP locaux à mettre en œuvre le IPv6. C'était le projet IPv6 et actuellement, tous les ISP participent, sauf GTD, parce qu'ils pensent qu'ils ont terminé. Et je vous dirai un peu là-dessus, mais ce que j'ai dit se centre surtout sur ce que nous avons fait. C'est précis, pas beaucoup d'autres choses à se produire au Chili, mais il vaut la peine que l'Université Federico Santa Maria à Valparaíso ils travaillent là-dessus et ils ont mis en œuvre la double stacking avec dual crossing. Et à la fin de 2009, nos serveurs étaient accessibles via IPv6 du Chili et internationalement.
La page web pour le projet IPv6 au Chili, c'est à la base simplement un portail d'informations avec les mises à jour. On essaie de mettre à jour, on essaie de mettre les nouvelles, générer des informations, des manuels et ainsi des bulletins. Le but, c'est que ce serait un point de concentration, de focus pour les ressources IPv6. Et aussi, il y a un compte Twitter où il y a toujours des informations qui sont diffusées pour la communauté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent, à peu près 600, mais ce nombre ça va nous montrer bientôt. Ça nous montre comment c'est étendu, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, en 2010, ce projet a offert des cours de formation pour les ISP locaux et certains d'entre eux ont commencé à obtenir des blocs V6. Certains, pour certains clients qui testaient, nous avons en 2011 activé les PV6 sur nos nuages Anycast. Je vais vous montrer ce que cela sont. Nous avons participé aussi à la journée mondiale des PV6. Nous avons habilité l'enregistrement AAAA pour notre site www.nic.cl et pour notre serveur WIZ. Voici donc les endroits où notre nuage B, Anycast, Voilà donc qui est habilité pour les IPv6. Cette carte montre notre connectivité. Le cercle central, ce sont nos opérations, nos propres opérations. Nous sommes à Miraflores, nous avons FCFM, qui est le campus de l'université, et nos données sont à Adexus, notre centre de données est à Adexus. Et nous avons acheté la connectivité commerciale de Orange, Intel et Adexus et Claro. Ce sont donc les cercles bleus en haut. Nous avons aussi des GTD à gauche. Donc, nous avons beaucoup de redondance dans nos fournisseurs. Nous recevons 3 copies de serveurs racines. Nous avons aussi nos serveurs propres au Mexique, au Brésil, en République tchèque et au Pérou. Nous échangeons donc des affaires avec eux. Donc, ils sont à l'étranger. Ce sont aussi les sites pour nos laboratoires à gauche, comme vous voyez, NICLAB. Et en prochaine diapo, les liens qui restent en noir sont ceux qui ont la capacité IPv6. Donc, vous voyez qu'en tant que fournisseur GTD, qui nous amène du service à gauche, en bas, et Adexus en haut, Claro et Orange ne sont pas encore capables de nous fournir une connectivité IPv6. Et tous les serveurs racines de connectivité IPv6 sont seulement le serveur qui se trouve à la République tchèque, donc a une connectivité IPv6. En essayant de voir ce qui se passe vraiment, on essaie de chercher de trouver des chiffres, d'évaluer des chiffres. Les chiffres nous montrent vraiment une idée qu'il y a beaucoup d'activités, mais pas beaucoup de progrès. Ce diagramme montre le nombre des enregistrements Glue dans notre zone. Il y a aussi, ça a augmenté, mais ça a aussi baissé durant les derniers mois. Mais si vous regardez les chiffres absolus, il y a vraiment, ils sont très bas. Au mieux, nous sommes à 9 enregistrements Glue dans la zone. Et très peu d'entre eux étaient à nous. Il n'y a donc pas beaucoup d'activités en dehors de Nikshile en ce moment. Ce sont les chiffres totaux de DNS que nous voyons dans notre nuage B qui viennent de nos adresses IPv6. Vous voyez qu'il y a une grande augmentation de 2010 à 2011, de rien à quelque chose en fait. Et jusqu'à présent, dans les deux ou trois mois de l'année, cette année, nous voyons déjà des chiffres qui nous permettent de faire des projections, des prévisions, une croissance intéressante de 2011 à 2012. Et c'est ce que nous voyons à partir de tout le monde vis-à-vis de notre nuage. Dans le monde, bien sûr, cela augmente. Ce sont ici les demandes que nous voyons, qui demandent donc pour les adresses IPv6, qui nous demandent des adresses IPv6. Il y a donc de la croissance, mais ça ne va pas très rapidement, comme vous le voyez. Quel est le statut? Nous avons l'accès pour les IPv6, pour nos serveurs, nos DNS. Nous allons avoir des adresses IPv6 pour nos serveurs de mail, et nous allons aussi habiliter tous nos nuages pour les IPv6. Et nos projets IPv6 s'est couramment mis la concentration sur le travail de proximité pour nous assurer d'avoir que les plus grandes institutions du Chili viennent à bord. Il y a des discussions en ce moment, certaines techniques pour El Mercurio. qui est donc le plus grand journal, la Nerline, qui bien sûr est la compagnie aérienne, certaines des banques, la branche locale de Citibank, Corpbanca, Corpush et Transbank, qui est le fournisseur de cartes de crédit, de transactions de cartes de crédit pour tous les points de vente dans le pays et aussi pour Redbank qui opère toutes les machines à retrait d'argent au Chili. Donc, si vous menez ces gens-là à bord, c'est très important, ce sera très important. Et donc, là, nous verrons quel en est l'effet, quels en sont les effets. Des objectifs impressionnants que vous avez en Chili. J'ai appris que ce que vous faisiez, je ne savais même pas. C'est bon d'être surpris dans ce sens. Notre prochain orateur est Martin Levy. Martin travaille pour Hurricane Electric et c'est un des promotions de l'IPv6 dans le monde. Bienvenue à Martin. Merci, Raoul. Si vous êtes assis à la fin de la table, vous ne savez jamais si vous êtes le premier ou le dernier à passer jusqu'à maintenant. Mais c'est en fait bon d'être dernier dans ce cas. J'ai des chiffres aussi, mais je vais adresser en premier un élément clé très important. Mick Shelley a dit qu'il y avait seulement très, très peu de / 8 des records de liaison générale d'environnement non reliés. Très peu, c'est mieux que zéro, même s'il n'y en a qu'un. C'est très important pour une personne d'être V6, d'être capable d'être habilité V6 dans un domaine. Je vais vous montrer des chiffres importants. Peut-être je vais remontrer les mêmes chiffres, mais le point clé, c'est que même si c'est un dossier, un nom, un DN, c'est très important parce que nous regardons un Internet qui doit marcher, qui doit fonctionner, qui doit continuer à fonctionner à travers toutes les transitions que nous allons avoir, celles donc, dont parle le V6. Donc, pour vous donner un petit historique, l'historique, c'est que... Non, une autre diapo. L'historique rapide, c'est que nous devons... d'être important de comprendre que toutes les choses dont on a parlé ici aujourd'hui, ça a déjà été fait. La complexité de l'apprentissage, de comment on doit habiliter le V6 à l'intérieur d'un environnement d'Internet, d'un environnement DNS, si vous ne l'avez pas déjà fait, alors écoutez les expériences qui sortent du Canada, du Chili, réalisez que c'est faisable. Même à partir de rien, les Canadiens, l'expérience canadienne qui était, dont on a parlé à Singapour en premier, était un exemple très très bien. On a vu qu'ils sont partis de rien. Mais pour Saint-André-du-Loup, par exemple, ma compagnie, nous avons fait ça depuis très très longtemps. Et donc, il y a 10-11 ans, il n'y avait rien qui était viable au niveau commercial pour le V6. On ne pouvait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a 11 ans, donc. Mais durant les 5 ou 6 dernières années, l'habilité, la capacité de démarrer des V6 commerciales qui sont disponibles avec l'habilité équivalente du V4, c'est ça qui se passe vraiment. Nous sommes donc en bonne position maintenant à partir de ma leçon d'histoire. Si vous êtes nouveau dans cette histoire V6, beaucoup d'entre nous ont déjà fait ce travail depuis bien longtemps. Cette année 2012 va voir le lancement de V6. Encore au niveau historique, comment est-ce qu'on doit faire ce lancement historique cette année? On va donc parler de certains métriques. On va regarder ces tendances positives. Je peux aller assez vite avec ces chiffres, pas seulement parce qu'ils ont bien été, on en a bien déjà parlé, comme Arturo et d'autres d'ailleurs. Beaucoup de d'éléments clés. Chacun graphique continue sur la droite, va vers la droite. Chaque graphique montre une tendance positive pour le V6. Donc, beaucoup de pays qui ont habilité le V6, au niveau de certains services Internet, quels qu'ils soient, a augmenté assez bien. Quand vous avez 149 pays, ça marche bien. Je parle de TNS, TLD, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Le prochain graphique relate à ce qui se passe au niveau global sur la table PTP. Il y a des clés sur ce graphique qui montrent un effet humain. Il y a un moment où c'était officiel. Quand ça a été officiel, la presse a donc parlé de l'histoire que nous n'avions plus d'adresse V4. Et l'intérêt dans le V6 a augmenté, a sauté. Donc, c'est parce que les gens aiment à bien avoir des délais, des dates de délai, des dates butoirs. On aime bien être prêt avant, mais cette date butoir a amené beaucoup de V6 intéressants. Donc, en juin, la journée V6 monde, c'était d'une bonne date pour être prêt. Les gens ont fait ça un peu comme c'était pas un Y2K comme on avait fait. Ils pensaient que c'était comme ça, j'allais pas les corriger, c'était pas ça. Mais les gens devaient s'apprêter pour cette date. Donc les choses ont baissé un petit peu après cette date. C'était pas surprenant, c'est la nature humaine. Mais à la fin, ces V6, ces réseaux capables de recevoir le V6, il y en a encore plus maintenant globalement qu'il y en avait. On a encore beaucoup à faire. Mais les deux prochains graphiques, vous voyez à droite, c'est la même information qui a été détaillée sur beaucoup d'années. La réalité, c'est que on a vraiment fait on vient de loin. Toutes les graphiques vont vers la droite. On parle de la journée V6 de l'année dernière. C'était un test de 24 heures pour habiliter le V6 sur les sites clés. Nous avons entendu parler de Yahoo, Facebook, Google, CDM, comme Optimine, Limelight, qui fournissent beaucoup de données au reste du monde. Et beaucoup d'autres sites sont venus à bord pour cette période de 24 heures de test. Quand on regarde le graphique de ce qui s'est passé, il y a eu vraiment des choses fantastiques que nous avons vues. Et nous attendions à les voir. Nous avons vu la circulation qui a augmenté, qui a sauté, en voulant dire que si vous habilitez V6, il y a déjà une base d'utilisateurs qui est prête à partir aujourd'hui. Donc, on le savait, mais personne ne l'avait fait. Personne n'avait fait tant en une seule étape, en seul pas. Nous avons donc vu un saut dans la circulation et ensuite nous avons vu un pic durant la journée. Et une fois que la journée a été terminée, et c'était juste pour 24 heures, c'était un test de 24 heures, mais après les 24 heures, certains de ces sites ont décidé « les choses ont bien marché ». Nous voudrions laisser certaines de cette circulation en place et continuer à fournir les services V6. C'est pour ça que le graphe n'est pas redescendu à zéro. Si vous allez sur la page prochaine page, vous verrez qu'avec le temps, voilà donc un graphique pour 2 ans que cette journée V6 mondiale était vraiment un saut de la circulation globale qui est énorme. C'est mesuré. Pour nous, il y a eu d'autres choses qui peuvent être rajoutées. Si V6 donc avait vraiment des problèmes, certains des sites web auraient donc éteint ce service. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est une bonne chose aussi. Il y a 2 ou 3 choses dont on peut se rappeler de ce jour-là. C'était donc le trafic web, c'était habiliter les sites web. Gardez ça en tête parce que nous, l'interaction, l'échange de l'humain avec le web, avec la réalité, c'est que cela prend plus que ça pour que les sites web... Je vais donc faire une petite révision sur ICANN 41-42 avec le CFOR pour voir... quelle est l'historique au niveau du TLD avec le V6, le graphique ici est sur 2 échelles. L'échelle bleue, La ligne bleue, c'est le nombre de TLD qui existent dans la zone racine. Cela a augmenté avec les années et ça va encore augmenter, encore plus. Mais ces augmentations qui incluent les IDN et quelques GTLD qui se sont montrés a été assez une bonne augmentation régulière. Mais la ligne verte et la ligne rouge, sont les lignes que vous voulez regarder. Vous voulez vous concentrer. La ligne verte, c'est le nombre de liaisons générales d'environnement non reliées sur la zone route racine. C'est là où Yana a obtenu des enregistrements quotés, comme les domaines de premier niveau peuvent être atteints à travers leurs hôtes V6 indigènes. Nous avons aussi fait des audits. Nous pouvons dire, est-ce que c'est un problème? Parce que nous savons que ces TLD fonctionnent très bien. La réponse est, nous regardons la capacité pour que tout fonctionne bien en V6 et le monde V6, V4. La réalité, c'est que un chemin clair vers le V6, même au niveau DNS, est important. Parce que les réseaux augmentent, les réseaux mobiles augmentent au monde entier et ils vont devenir plus importants au sein du V6. La différence entre deux lignes vertes et rouges, en fait, c'est bon qu'elles convergent à la fin. La différence, c'est que la ligne rouge dit que les NS est habilité pour le V6. Nous avons vu ça pour le Chili, nous avons vu ça pour le Canada. Il habilite le nom du serveur. Les NS à avoir du routing globalement pour le V6. Mais à moins que vous finissiez le processus IANA et que cette adresse V6 soit inclue dans le IANA, dans les dossiers IANA et dans la zone racine, personne ne va l'utiliser. Donc il y a beaucoup à faire. Il nous reste encore que 10-15% des domaines. Prochaine page. On va donner des noms parce qu'on peut le faire. La prochaine diapositive. C'est DN. Il leur manque cette dernière étape avec Yana, avec Yana. Nous savons donc c'est bon. Quand vous regardez à d'autres domaines qui n'ont pas encore rien de V6, ils n'ont pas de nom de primaire ou secondaire. Si vous êtes sur cette liste, venez me parler ou venez parler à qui que ce soit à propos d'obtenir cette dernière étape de V6, de habilité V6 faite, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, ou même les secondaires sont partout. Peut-être il n'y a pas d'excuse pour Dotnil qui n'a pas un V6, mais .1000, mais ils sont là quand même. Donc c'est fondamental et c'est une dernière étape qui a été faite par d'autres TLD. Par les autres DLD, je pense qu'en allant de l'avant, quand les GTLD vont sortir, j'espère que ces gens-là ne seront jamais sur cette liste. Il n'y a pas de raison de voir cela dorénavant. Donc, on va continuer vers les points les plus importants. Le lancement du V6 mondial. L'année dernière, nous avons fait donc un test de 24 heures. Cette année, nous allons lancer pour de bon. Nous allons, ce ne sera pas seulement une semaine, deux semaines, un test par un mois. On va démarrer pour toujours. Nous allons parler de ce que cela veut dire. C'est le 6 juin. Eh bien, le chiffre 6, un bon chiffre rond. L'URL est là, comme vous le voyez. Allez-y maintenant, si vous voulez. Rappelez-en-vous, testez-le. Pensez du temps à regarder cela, à y voir. Et on va donc commencer et rester avec. Et on espère réussir. Nous avons prouvé ça l'année dernière. Et j'espère que nous allons y aller. Nous allons faire pour de bon. L'autre chose, c'est que si vous êtes enregistreur ou enregistre, regardez ce dont vous avez besoin pour avoir la capacité V6 et avoir les enregistrements Gloop qui soient donc intégrés dans votre système pour faire votre partie, votre part de travail. Allez vers la prochaine diapo. Oui, j'ai pris deux choses. Il y a deux. Google et Facebook, ce sont les deux grands joueurs. Ces deux déclarations, même si vous ne lisez pas toutes les déclarations qui sont sur leur blog, sur leur site, regardez ce mot. permanent, habilité de façon permanente, ça dit bien permanente. Pour que ces sites fassent cela de façon permanente, cela veut dire qu'ils ont de l'espoir dans cette, de cette infrastructure, de toutes les questions autour de V6, qu'ils suivent tous les testings que nous avons fait depuis des années, au point où cela peut vraiment être mis en ligne et que ce soit, que ça reste, que ce soit prêt pour prime time. Donc, il y a eu beaucoup, ça rapporte beaucoup de revenus. C'est basé sur les services Internet. Cela veut dire qu'ils savent qu'ils ne vont pas perdre des revenus pour, en faisant le V6. C'est un point clé. Nous allons à la prochaine diapositive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire cet été? Quelle est la valeur que cela aura par la suite? Alors aujourd'hui, il faut éduquer les clients. Et c'est, il faut regarder quel est le travail de proximité qui a été fait par ISOC et d'autres parties prenantes pour obtenir les exigences de que les exigences de V6 soient comprises. Vous pouvez aller aujourd'hui et voir vos sites de soutien si vous faites si vous faites des domaines parqués. Vous pourrez parler des choses que vous pouvez donc habiliter V6. Mais les problèmes importants vont venir cet été. Nous avons vu ça l'année dernière. Nous savons que nous allons voir encore cette année. C'est que la presse va prendre cet événement et en parler, et écrire. Et dans la presse technique, dans la presse populaire, dans la presse commerciale, dans tout cela va donner à beaucoup de gens la capacité de sauter dans le train et de parler du V6 à leur avantage. Prenez avantage de ça. Utilisez cet événement en tant qu'un lancement pour votre propre service V6 et acquérez donc cette presse appropriée où que vous soyez dans le monde. Et donc après, n'utilisez pas seulement cela en date butoir et après vous oubliez. Assurez-vous que vous poussez pour les services V6 après ça. Après cette date et pour toujours après ça. Parce que l'Internet, comme nous le savons, croît de façon significative. Et voilà, donc c'est mon discours. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait V6, on amène du service V6. Si seulement on était au Chili, mais non, nous sommes au Canada. Comme l'ai dit dans d'autres endroits, à mes concurrents, soyez montez dans le train, montez en marche en train, cette chose V6, c'est bon. Merci, c'est tout ce dont j'ai le temps. C'est tout ce que j'ai le temps pour dire, quoi.
Thank you, Marty.
Merci, Marty. Très bonne présentation, Marty. Il nous reste 12 minutes, donc. Nous avons le temps pour avoir des questions, des interventions du public. Si vous voulez bien lever la main, je puis vous laisser le micro et rester bref. Question ou commentaire bref, 30 secondes ou une minute pour que beaucoup de gens parlent. Merci. La dame au second rang. Bonjour, je m'appelle Marta Fonseca du Costa Rica. J'aimerais poser deux questions. Je suis représentant de Costa Rica et j'aimerais savoir s'il y a des restrictions en termes d'obstacles techniques et qui sont les fournisseurs IPv6 au Costa Rica. Et pour M. Arturo, la question est la suivante. Selon votre travail avec l'ACNIC en Amérique latine, quelles étaient les plus grandes limites et les obstacles auxquels vous étiez confrontés, soulevés par les gouvernements pour travailler avec l'IPv6? Carlos? Les restrictions techniques? Voyons. Nous n'en voyons pas autant de restrictions techniques que politiques. Les fournisseurs IPv6 dans le pays sont presque tous des ISP qui existent maintenant au Costa Rica. Ils ont déjà l'IPv6 dans leur réseau. Donc, ce que nous avons vu, c'est que Depuis deux ans, les ingénieurs travaillent déjà avec IPv6 et ils ont eu des ateliers. Les gens ne demandent pas l'IPv6, même lorsqu'ils sont formés gratuitement. Donc, cela a plus à voir avec des questions politiques que techniques. Carlos, nous avons vu une grande déconnexion entre le personnel technique et commercial chez les ISP parce que les réseaux sont et les services sont prêts, mais les commerciaux ne savent pas qu'ils ont IPv6. Je vous encourage, en tant qu'ISP, parler à vos gens de commerce et dites-leur que vous avez IPv6 et ne demandez pas ce que le client demande l'IPv6 parce qu'ils ne vont pas demander l'IPv6. C'est juste l'Internet. Vous vendez l'accès Internet. Donc, vous donnez leur adresse IPv4 et IPv6. Si vous allez loquer /29 sur IPv4 et /28 pour IPv6, ne demandez pas. N'attendez pas qu'ils vous demandent. Je n'ai pas vu de restrictions du point de vue des gouvernements. Au contraire, ils encouragent les ISP à déployer IPv6. Mais ce serait mieux que les ISP déploient l'IPv6 sans la pression du gouvernement. N'attendez pas que le gouvernement vous force à déployer IPv6. Commencez dès maintenant par vous-même. N'attendez pas qu'une loi vous force à le faire. Merci beaucoup. Monsieur Wilson, après vous, nous avons un commentaire à distance. Soyez bref, s'il vous plaît. Merci. Paul Wilson à PNIC, félicitations et merci à l'ACNIC. C'est vraiment une très grande participation des panélistes et du public. Nous avons vraiment cette année une grande année et depuis peu d'années par la suite pour que IPv6 fonctionne. Donc si nous ne faisons pas ça, les chemins sont très difficiles. Ce sera difficile de reculer d'ici 5 à 6 ans. Donc, il faut des informations concrètes. Les présentations étaient très bonnes et très détaillées pour donner des informations concrètes. Mais par exemple, dans le cas de Sierra, c'était très intéressant. J'ai vu que vous étiez un peu timide sur les détails de vos expériences en termes de vendeurs spécifiques qui soit ne vous soutenaient pas ou bien qui soutenaient IPv6. Je crois que maintenant est le moment de nommer ces gens-là et de leur faire et qu'ils aient honte. Ceux qui n'utilisent pas l'IPv6 mais qui fournissent et féliciter ceux qui le font. Donc j'aimerais bien savoir les marques et les entreprises des détails durs sur là où ça marche et là ça ne marche pas. Je vous encourage d'inclure ces informations dans vos présentations par la suite. Merci. Merci. Je m'appelle Nelly Solas. Je suis le personnel ICANN. Je lis une question de Rectiker en ligne. Est-ce que le listage blanc de Google va se terminer le 6 mars? Oui, la question est, est-ce que le listage blanc de Google, et je vais expliquer ce que c'est, va prendre fin le 6 juin. Le listage blanc, c'est une méthode manuelle de définir des réseaux dans le monde qui tolèrent IPv6 afin qu'une réponse DNS reviendra avec une réponse qui permettant l'IPv6. Et la réponse doit être affirmative parce que tout le monde aura le V6 le 6 juin, que vous soyez sur la liste blanche ou pas. Tout ce qui a été fait en particulier pour forcer un groupe à tolérer ou à ne pas tolérer V6 par rapport à un autre groupe, tout ça, ça part en fumée. Le mot permanent en juin 6, c'est que V6 est allumé pour tout le monde. Fin des discussions. Donc, ce sera la fin donc du listage blanc. Merci. Les personnes assises à côté de vous, identifiez-vous. Je m'appelle Yaovi de Afralo. La question va au présentateur du Canada. Puisque vous avez terminé le déploiement, j'aimerais savoir si vous connaissez l'impact et si l'ISP choisit, vous suivez, vous voulez être prêt, mais est-ce que les gens vous suivent et l'impact également sur les usagers? Depuis que nous avons fait la journée IPv6 au Canada, nous présentons beaucoup de gens sur l'IPv6. Nous formons les formateurs et l'impact est que nous avons eu beaucoup de Canadiens dans la salle et leur dire que l'Internet est V4 et V6, pas V4 ou V6 et les usagers finaux ne vont pas demander V6, donc les ISP. Martin, comme disait, les ISP doivent fournir un transit V6 sans le demander ou faire l'offre. Donc, d'un point de vue, je crois que nous avons fait un petit impact. Je sais que presque tous les Canadiens, les ISP canadiens, auront V6 dans l'année et nous poussons les choses pour que cela se réalise. Merci. Vous? Bonjour, merci pour la présentation. Je m'appelle Stéphane Lackner, je suis Internet X Allemagne. Nous sommes registraires et fournisseurs Internet. Sur l'expérience usagée avec V6 qui vient, je vois la menace pour les usagers finaux et avec les appareils des usagers finaux pourraient être plus attaqués directement avec le netting des adresses IP. Vous avez au moins un certain niveau de camouflage entre les deux. Et le second point, avec l'introduction IPv6 qui doit se dérouler, je vois un potentiel pour que les gens aient des intentions dolosives d'induire en erreur les usagers et de tirer profit là-dessus parce qu'il y a une révolution technique qui se déroule. Je demanderai aux panélistes, ceux qui se sentent concernés, de bien commenter là-dessus. Nous avons le temps pour des questions rapides. Est-ce que vous voulez sauter sur la question? Oui. C'est pas vraiment. Ce sont des trous béants. Donc, vous voyez les trous et vous voyez le réseau. Donc, nous avons besoin de sécurité, mais cette sécurité est à travers les pare-feux. Et les pare-feux sont IP6 et IPv4. Donc, on doit faire davantage d'attention à la sécurité, mais rien. Nous avons besoin de traiter les IPv6 comme les IPv4 pour la sécurité. Nous deux, comme Jacques a dit, nous avons besoin de politiques très claires au niveau de la sécurité. C'est une question intéressante. Tout ce qui est nouveau provoque, pousse les gens à analyser le niveau de sécurité dont ils ont besoin. Mais est-ce que si c'est quelque chose dont on peut tirer profit du point de vue du génie humain, c'est ce qu'on voulait de la question, et utiliser pour un profit de type incorrect, c'est très questionnable par rapport à comparer aux autres choses. La réalité est que V6 n'a aucun effet si vous êtes sur un réseau V4 uniquement. Ça, c'est le premier problème. Et la seconde chose, c'est que la base des usagers, comme cela a été dit auparavant, la base des usagers, en théorie, ne devrait pas demander les V6. La base d'usagers devrait encore tenir compte d'un URL qui est dans leur banque ou de leurs réseaux sociaux qu'ils essaient d'avoir accès. Et il y a différentes autres discussions sur la manière de sécuriser cela. La partie V6 est sous le radar et incognito et devrait être déployé. Cela est déployé actuellement avec le même niveau de sécurité que dans le monde V4. Merci. Dernière question. Nous allons clore la question. Bonjour, je Harry Mowell du gouvernement d'Inde. Je suis chargée de la mise en œuvre du IPv6 dans le pays. C'est une bonne discussion dans le panéliste. J'aimerais poser deux questions au panéliste. Premièrement, mais les opérateurs et même les gouvernements poussent les mises en œuvre de IPv6, mais très peu sont conformes IPv6. Donc, nous cherchons donc des appareils qui sont conformes au IPv6. Et quel le il y a des pressions du gouvernement en Amérique latine ou au Canada où 20 secondes pour chaque question. Si j'ai compris la première partie de la question, les appareils qui acceptent IPv6, c'est presque les routeurs, les serveurs et les systèmes d'exploitation. Non, je parle des appareils usagers finaux. 90% des mobiles, des appareils mobiles sont conformes IPv5. Donc ça dépend des fabricants. Est-ce qu'ils doivent... Comment est-ce qu'on peut forcer le trafic IPv6? Il y a un petit pourcentage d'appareils, mais je crois que on pousse cette partie, mais c'est un problème. Et vous avez besoin de stratégie là-dessus, mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour le discuter. C'est l'une des... La durée de vie d'un appareil mobile est de moins en moins longue et c'est les fabricants des appareils mobiles vont plus vite pour vers le IPv6. Donc, au cours des 3 ou 4 ans, il y aura un renouvellement total de tous les appareils utilisés actuellement. Donc, le pourcentage des appareils qui soient compatibles à IPv6 va augmenter chaque fois. C'est mon opinion. Avant de terminer, j'ai une question pour Carlos. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez en tant que régulateur? Quel est le rôle du régulateur si les ISP ne prennent pas des mesures pour passer à l'IPv6 à court terme? J'ai peur de faire un commentaire plutôt cynique. Les régulateurs n'interviennent pas parce qu'ils ont peu de ressources. Donc, la pire des choses, c'est que les gens restent à IPv4 parce que, par définition, c'est devenu une ressource gérée. Si tout le monde passe 100 heures à IPv6 rapidement plutôt que plus à long terme, cela empêche aux régulateurs de poser des questions sur ces ressources. Donc, vous pensez que ce dialogue est meilleur que la régulation? Bien sûr, parce qu'au Costa Rica, nous avons un problème et nous devrions avoir honte que nous faisons à peine ou d'ouvrir le marché, nos régulations, les droits d'interconnexion, les droits d'accès international pour les données et nous voulons ouvrir le marché, libéraliser. Et j'espère que le régulateur ne devient pas un obstacle. Le projet Fonatel devienne un grand demandeur d'adresse IPv6. Merci beaucoup. Nous avons un retard de 3 minutes. Donc, je voudrais remercier tous les panélistes d'être ici. Je crois que nous avons entendu des présentations de très haut niveau en provenance présentant différents rôles et perspectives. J'apprécie vraiment. Merci à la participation de vous tous. C'était très intéressant de voir que nous n'avons pas pu introduire tout le monde à la pièce. Donc, j'espère que nous pourrons voir un graphique à la prochaine réunion pour les IPv6 comme Martin a montré. Donc, j'espère. Merci à Aiken pour nous avoir invités à organiser cette session. Merci à tout le monde. À bientôt.